lorsqu'on s'aperçoit que la politique qui est menée par tel ou tel État, notamment par le nôtre propre, ne va pas vers la justice, vers la juste distribution des richesses, alors la colère vient.
Le mouvement des ouvriers avait commencé à Madrid en Espagne, c'est désormais New York que son épicentre. À Rome, plusieurs dizaines de milliers de personnes ont marché dans la ville. La manifestation a dégénéré.
Vous êtes bien sûr Radio Pont, on vous remercie de rester à notre écoute. Et on a aujourd'hui le plaisir d'avoir dans le studio Monsieur Christophe Pélissère. Bonjour Christophe.
Oui, bonjour chers auditeurs.
Il y a Sylvie aussi qui est dans le studio. Salut Sylvie.
Bonjour, bonjour à tous.
Qui travaille à la radio, vous entendrez régulièrement sa voix maintenant sur les ondes aussi. On est là pour parler du Café Philo qui arrive très bientôt, le vendredi 10 mars à 19h. De 19h à 21h, on cause, on échange, on débat. Et après, 21h jusqu'à plus tard, on mange ensemble, chacun amène un petit truc à manger, et puis on prolonge ou pas la discussion, on fait connaissance sous d'autres formes.
Un petit truc à boire aussi.
Et un petit truc à boire, entendu. À manger, voilà. C'est assez convivial, ça se passe au centre social. C'est le deuxième vendredi de chaque mois, donc là le prochain, c'est le vendredi 10 mars à 19h. Et le sujet ce mois-ci, c'est la justice. Alors la justice, c'est quand même un sujet assez imposant d'emblée, surtout que ça résonne un peu avec l'actualité française, on va dire, et les déboires des uns et des autres. Tout à l'heure, Sylvie, tu avais une citation de Montesquieu, c'était par rapport à l'injustice, mais de fait, par rapport à la justice.
Oui, alors cette citation de Montesquieu, c'est « Une justice faite à un seul homme est une menace faite à tous ».
Eh bien oui, ça montre tout d'abord que la justice, c'est une exigence à la fois intime, profonde et même universelle au départ. Hein, parce que quand un partage, un traitement ou une reconnaissance sont inégalitaires, ben nous crions tous à l'injustice. Et c'est quelque chose que nous exigeons à la fois pour nous-mêmes et pour les autres. Et puis, il y a de notre côté eh bien, la façon dont elle se concrétise par des institutions qui, elles, ben, dépendent des pays où elles se trouvent. Et je crois qu'on peut partir du symbole de la justice qui est assez intéressant. Vous le connaissez,
la balance.
Entendu. Oui, la balance. Et puis aussi quoi ?
Le bandeau sur les yeux.
Le bandeau sur les yeux. Elle est souvent aveugle. Et puis le glaive. Parce que, évidemment, la justice, comme le dit Pascal, sans la force de la coercition pour la faire appliquer, n'est pas aussi la justice. Et la force sans la justice n'est pas la justice non plus. Donc il est forcément associé, et c'est tout ça l'ambiguïté et la problématique, bien la force. Alors, qui la délègue, qui l'exerce ? Tout ça, eh bien, c'est déjà un premier problème qui se pose à travers les institutions, bien entendu.
Il date de quand, ce concept de justice ?
Oh là, il est très très ancien. Déjà, on peut revenir à l'étymologie. Hein ? L'étymologie, jus juris, c'est finalement... Il y a le droit, hein, quelque chose qui est très net, c'est directus, ce qui est droit, ce qui n'est pas tordu, hein, ce qui va bien. Et jus, c'est plutôt de iubet, hein, les gens ne sont pas tout à fait d'accord sur l'étymologie, mais ça veut dire ce qui désigne, ce qui montre, c'est ce qui est décrété en quelque sorte. Donc il y a l'idée quand même de quelque chose qui est de la nature de l'ordre. Hein. Et c'est quand même assez terrible, parce qu'on se souvient tous peut-être de cette phrase de Goethe qui dit « Il vaut mieux parfois une injustice à un désordre, parce que le désordre est encore plus facteur d'injustice. » Donc au départ de « jus justis », il y a l'idée, quand même, qu'on le veuille ou non, de l'ordre, de la paix entre les gens qui va être délégué donc à cette institution. Voilà d'où naît cette notion de justice, qui est à la fois donc un idéal, une exigence, hein, et puis aussi une institution, une convention entre les hommes.
la loi.
Voilà, la loi. Alors ça, c'est une grande idée de Hume dans son traité d'entendement. Il dit, ben voilà, la justice ne sera jamais la justice, mais pour éviter l'arbitraire, il faut bien trouver un mode de fonctionnement.
La justice ne considère donc ni le droit, la morale et la vertu, et d'autres sources normatives du comportement. L'injustice a-t-elle un caractère universel? Et comment considérer les variantes culturelles?
Ah oui, alors, ce que, si je reprends un peu, c'est que le sentiment, effectivement, de la justice, il est tellement intime, ancré en soi, subjectif en un sens, qu'on se demande, il ne peut pas y avoir de véritable justice sans reconnaissance de l'offense, d'une part, qu'on a faite, de la validité de la punition, si on veut, de la coercition sociale. Et c'est vrai que c'est là que le problème blesse, parce que d'une part, les lois sont différentes selon les pays, et ce qui est, comme disait Pascal, vérité au-delà des Alpes ne l'est pas en deçà des Alpes, comme dit Pascal dans Les Pensées. Et d'autre part, chaque individu a des besoins, des exigences de justice, des niveaux de conscience différents. Donc, la justice en tant que sentiment est universelle, en tant que besoin aussi, mais on peut dire que, eh bien, elle est appliquée de façon très diverse. Et c'est Victor Hugo qui dit, eh bien, il y a une différence entre le juge et la justice, parce que le juge, il est dans le relatif, selon les époques, selon les circonstances, les pressions aussi.
Les normes. Avoir,
que ce soit du parquet ou de l'opinion publique. Mmh. Et puis, la justice, c'est quelque chose qui est de l'ordre de l'absolu. Et il nous dit, et c'est pour ça que dans ce domaine, le désordre, vous voyez, alors là, il dit un petit peu l'inverse de Goethe, justement. Donc ça, c'est une seconde problématique, ordre et justice, désordre et justice. Eh bien, parfois, il est le signe de demande, surtout dans le domaine social, d'une autre justice, d'une nouvelle justice. Alors, cette relativité de la justice, peut dire qu'au niveau des principes, on peut tomber d'accord, mais l'application est très difficile. Est-ce qu'il peut y avoir une justice juste? Est-ce que c'est véritablement possible? Il semble au contraire que la frustration soit complètement au rendez-vous dans ce cas-là. Mais en gros, il va y avoir en philosophie deux grandes, sans déjà entrer dans les détails, nous verrons lors du café philo, lors du débat, il y a deux grandes familles, si l'on veut, par rapport à cette exigence. Les libertaires, qui veut dire se défendre, ne veut dire en aucun cas s'auto-défendre, parce que dans ce cas-là, ce serait vouloir faire justice soi-même. Se défendre, c'est refuser de jouer le jeu des instances de pouvoir, se servir du droit, au contraire, pour limiter les actions du pouvoir, qui lui veut imposer sa justice. Et puis, il y a les libéraux qui vont dire, eh bien, se défendre, ça va être délégué à des institutions indépendantes, bien sûr, il faut qu'elles soient indépendantes, contrôlables, mais dignes de confiance, le pouvoir de juger, avec des droits et des garanties, les personnes qui vont enfreindre l'ordre social et emmerder tous les autres. Voilà, en gros, les deux tendances, et on trouve ça à tous les niveaux de la société, et puis aussi, les philosophes vont pas être tout à fait d'accord là-dessus. Il y aura ces deux grandes familles, en quelque sorte.
Mmh. Très bien.
Les jurés. Ce que tu dis là fait penser aux jurés, aux gens de la société civile qui sont pris.
Ces principes
qui sont appelés.
Respectés, puisque, à part dans les affaires justement politiques, terroristes ou autres, il y a des cours spéciales. Mais dans la justice pénale, l'accusé peut très. Enfin, le présumé, pardon, vous voyez, déjà, je me plante. Mm-hmm. Il peut très bien demander à récuser les jurés. Hein. Mm-hmm. D'ailleurs, son avocat fait une analyse sociologique des présupposés des uns et des autres, et puis hop, il va récuser ou pas. Non, vous voyez, à partir du moment où les garanties sont assurées, les libéraux vont dire c'est très bien. Voilà. Et les libertaires vont dire non, il y a des déterminismes qui nous échappent. Donc, vous voyez que c'est très délicat comme problème. Mm-hmm.
Subir une injustice ou commettre une injustice, quel est le plus grave?
Alors voilà, eh bien là justement, vous faites allusion à une phrase de Socrate reprise par Platon qui disait qu'il valait mieux commettre, enfin non, subir finalement l'injustice oui. que la commettre. Mais voyez bien qu'on peut être d'un avis contraire. Et c'est là justement, il y a une troisième problématique. Alors, évidemment, là encore, il y a une ligne de fracture entre ben, les gens qui font passer leur ego, et peut-être tout simplement leur préservation avant celle des autres, et celles qui disent que pour que la justice fonctionne, il faut appliquer une loi morale. Alors les premiers, c'est un petit peu les Kantiens, vous voyez, Kant qui dit que le respect de l'autre, c'est ce qu'il appelle une condition qui est finalement catégorique, hein, un postulat qui est essentiel, hein, qui ne se discute pas, le respect de l'autre, hein, c'est la fameuse phrase « ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'il te fie », ou alors « fais en sorte que les lois, les maximes morales que tu appliques aux autres, tu puisses les appliquer intégralement aussi à toi », donc ça c'est vraiment la conscience morale, hein, la critique de la raison pratique. Et puis, il y a d'autres personnes, comme par exemple Nietzsche, qui vont dire que finalement, la conscience peut s'affranchir, ou même Pascal, ou même un certain nombre de philosophes chrétiens, que les droits de la conscience sont supérieurs à toutes les autres. C'est la fameuse histoire d'Antigone et de Créon, là. Hein, et que la conscience peut se libérer des lois... des lois écrites et faire valoir ses droits, quelle que soit la situation. Là encore, vous voyez, ça met à mal ce concept de justice. C'est pour ça que l'idée de l'équilibre, de la balance, le symbole est très beau, hein, et les yeux bandés aussi, parce qu'il peut y a beaucoup d'erreurs, hein, mais en même temps, il y a cette nécessité d'un équilibre. Voilà en quoi le concept de justice est intéressant. C'est plutôt... C'est pas la justice parce qu'elle n'est pas accessible véritablement.
Elle est dans l'absolu.
Cette égalité, c'est l'idée d'un équilibre.
Par rapport à l'égalité, Nietzsche dit « L'injustice ne se trouve jamais dans les droits inégaux, elle se trouve dans la prétention à des droits égaux. »
Ben oui, oui, il est assez critique. Il veut dire par là qu'il ne suffit pas d'une égalité des droits ou de cette demande pour qu'il y ait justice. Hein, déjà, remarquez, on distingue, Aristote déjà distinguait deux formes de justice. Hein, une justice qu'on peut appeler arithmétique, hein, que l'homme soit puissant ou qu'il soit misérable, mais on rétablit l'égalité des droits. Et puis une justice qu'il appelait distributive, c'est-à-dire elle se fait, hein, elle ne va pas donner à chacun les mêmes choses. Ça va se faire en fonction des circonstances et du mérite. Donc, vous voyez, cette égalité de la justice, elle ne doit pas être arithmétique, mais elle doit être en quelque sorte, hein, comme dire, algébrique. C'est-à-dire il faut faire mieux à ceux qui ont moins que les autres. Hein. Cette idée que... Donc, en même temps, c'est très difficile, parce que ces plateaux de la balance, il faut parfois... Ça ne peut pas être strictement égal. Il faut rajouter parfois de tel côté, ça va faire un déséquilibre, ainsi de suite. Donc, vous voyez, c'est un déséquilibre, c'est un équilibre précaire, finalement, la justice. Voilà ce que l'on peut conclure. En tout cas, bon, ne vous inquiétez pas, en fonction des questions que vous poserez, on en isolera une ou deux, hein, ou deux ou trois, peut-être, je ne sais pas, et on parlera, on débattra là-dessus, parce que c'est vrai que c'est un sujet complexe et vaste.
Donc, au vendredi 10 mars, 19h, au Centre Social, pour le Café Philo Pontois. Merci, à très vite. Au revoir Christophe, au revoir Sylvie.
Que la politique qui est menée par tel ou tel État, notamment par le nôtre propre, ne va pas vers la justice, vers la juste distribution des richesses, alors la colère vient.
Le mouvement des ouvriers avait commencé à Madrid en Espagne, c'est désormais New York que sont étendues à Rome. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ont marché dans la ville. La manifestation a dégénéré.
Le mouvement a gagné toute
en Allemagne, les défilés ont rassemblé des milliers
de personnes. Allons, un genre d'occupation au cœur de
l'île. Le des émeutes sur le globe, oui la jeunesse est dans la ville. Police ne changera rien parce que l'opprimé nous habite par son main. Dis-nous que partout on se rallie, au-delà des frontières et sans aucun parti. Allez leur dire trop spontanés pour être en carte et pas si vite. La répression à la haine et frappe même les pacifistes. CRS acharné, chien d'un avenir qu'on falsifie, fragilisé. À l'heure où la bonne foi foi est rarissime. Révolte se ramifie sur chaque continent, c'est imminent. Ingérable sera notre plus beau compliment. Incarnons le changement que l'on veut voir avant de tomber dans un trou noir poussé par les chaînes du pouvoir. Au jour le jour, car demain n'est pas indiqué. Révolution par le bas, car leur monde est mal imbriqué. Dites-leur que la rage du peuple est bien huilée. Printemps 2011 a vu fleurir des milliers d'indignés. La rue s'est soulevée à en faire trembler la machine.
Indignados,
c'est du dingue, il s'est levé mondialement et sans parti.
Indignados,
indigné, lève-toi.
Anonyme, dans vos villes, sous vos fenêtres, on est des milliers. Quien est salio à la cage, est-ce
la rabia?
Vos esperanzas de mañana.
Ciclo suicida, comme un grito de vida. Rebeldía unida, comme una suerte única. Última batalla, como podemos olvidar. Hay sangre en lágrimas, sino desde ahorita. El humano salió, el puño levantado. Indignados, unidos con los pueblos de todos lados. Viejo mundo, adiós, no es que un sueño. Pero lo que llega si asustamos a los dueños. Porque somos juntos más allá de la frontera.
Levántate, levántate.
El mismo corazón para todos los hijos de la tierra.
Levántate, levántate.
Los verdugos mataron la paz. Olvidaron la fuerza del amor. Acá los pueblos tienen la rabia.
Pueblos unidos, vamos, vamos, vamos.
La rue se soulevé en faire trembler la machine.
Indignados, vamos, vamos, vamos.
C'est une dingue qui s'est levée mondialement et sans parti.
Indignados, vamos, vamos, vamos.
Indigné, lève-toi.
Anonyme, dans vos villes, sous vos fenêtres, on est des milliers. Quien est salio à la cage,
est-ce la rabia?
Vamos, 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 esperanza de mañana.
Fut le printemps qui marquera l'histoire. À cœur anonyme qui fait trembler le pouvoir. La Grèce antique peut être fière de sa postérité, luttant avec courage contre leurs mesures d'austérité. Indignados s'est embrasé sur le globe. Partout a résonné l'appel de la porte del sol. Comme une traînée de poudre s'est propagée la révolte. Parce qu'au-delà de nos frontières, on s'est reconnus dans l'ordre. Une seule et même terre meurtrie. Et genre, l'âme collective a le cœur triste. Écoute, l'insurrection est de sortie. La rue s'est soulevée, même jusqu'au pied de Wall Street. Un même cœur au milieu de racines. Contre politique fasciste à l'heure où police assassine. Rien de facile, précipice, on a quitté la file. Y'a de l'espoir dans l'air, écartez-vous. Les indignés arrivent. La rue s'est soulevée, en faire trembler la machine.
Indignados,